Donc je parlais de deux grandes phases de hausse des prix. Donc la première, ça a été en 2021, en sortie de Covid, où à ce moment-là, on a eu un très fort décalage entre l'offre et la demande. C'est-à-dire que vous avez eu des capacités de production au niveau mondial qui restaient contraintes par des mesures sanitaires dans certaines parties du monde, en particulier en Asie et en Chine. Et puis au moment où les économies occidentales se réouvraient, notamment avec l'arrivée des vaccins, etc., et on a eu un redressement spectaculaire de la demande. Il faut bien se rappeler qu'on a eu sur toute cette période ces opérations de portage des gouvernements qui ont permis de préserver le tissu économique, mais aussi l'emploi et les revenus, si bien que les ménages en sortie de Covid, qui n'avaient pas pu consommer pendant comme à leur habitude, pendant les périodes de confinement ou compte tenu des contraintes, lorsque ça s'est réouvert, on a eu une ruée vers la consommation. Donc même si les capacités de production étaient, comme je disais, contraintes, dans tous les cas, elles n'auraient pas pu suivre ce redressement assez extraordinaire de la demande. Pour vous donner un exemple, en sortie de Covid aux États-Unis, la demande de biens, parce que ça a surtout concerné initialement la demande de biens, était 30% supérieure à la normale. Donc on a eu vraiment des frictions entre l'offre et la demande, et bien évidemment, la résultante, ça a été cette grande désorganisation des chaînes d'approvisionnement au niveau mondial, avec des goulets d'étranglement, des difficultés d'approvisionnement, des pénuries, des problèmes logistiques, qui ont bien évidemment, qui se sont traduits par une forte remontée des matières premières, des coûts de production et des coûts de transport, des coûts logistiques. Alors la bonne nouvelle, alors ça a été un petit peu évoqué, c'est que les indicateurs, on s'est mis à construire des indicateurs de tension sur ces chaînes de valeur globales. Et en fait, ces indicateurs vous disent aujourd'hui, ils sont revenus en deçà de leur niveau, de leur moyenne de long terme, qui veut dire qu'une grosse partie de ces tensions sur les chaînes de valeur se sont résorbées. On le voit au travers du prix du fret maritime, du prix des conteneurs, etc. Donc il y a quand même cette inflation qui était tirée par les coûts, elle est en train, en tout cas, de se dissiper. Deuxième vague, bien évidemment, c'est le déclenchement de la guerre en Ukraine en février 2022, avec à ce moment-là une nouvelle flambée du prix des matières premières. Alors essentiellement matières premières agricoles, certains métaux donc exportés par la Russie, et puis surtout bien évidemment les prix d'énergie, pétrole et gaz, par crainte de pénurie. Et là encore, plutôt des bonnes nouvelles, puisque on est revenu sur des niveaux de prix qui sont proches de ceux qui prévalaient avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, notamment sur le gaz. Sur le gaz, on a eu des pics, si vous devez vous en souvenir, on a eu des pics à l'été dernier à 350 euros le mégawatt-heure, bien au-delà même pour l'électricité, et on est retombé sur le prix du gaz à, je crois, à 25 euros, voire même un peu en deçà le mégawatt-heure. Donc on a eu vraiment une détente sur ces marchés liés à trois facteurs qui se sont conjugués. Le premier facteur, on a eu quand même un hiver qui était relativement clément. Alors ça a été une bonne nouvelle pour le marché de l'énergie, ça ne l'est probablement pas pour la planète. On a eu aussi une réactivité assez forte de l'Europe qui en fait a diversifié assez rapidement ses sources d'approvisionnement. Quand Monsieur Poutine a décidé de couper le gaz, l'approvisionnement en gaz, on est allé s'approvisionner en gaz naturel liquéfié, notamment en provenance des États-Unis. Alors sachant qu'en plus on a bénéficié d'une conjoncture un peu particulière. La Chine était encore à l'époque, l'hiver dernier, était encore en confinement. Et donc, de fait, on a pu notamment réorienter un certain nombre de méthaniers qui allaient vers, qui étaient à destination, sur des contrats de moyen terme, à destination de la Chine, qui, moyennant compensation, ont été reroutés vers l'Europe. Cette situation n'est pas forcément reproductible cette année. Mais néanmoins, quand même, ce marché s'est détendu du fait qu'on n'a pas eu ces difficultés d'approvisionnement qu'on aurait pu imaginer. Et puis, dernier élément à souligner, c'est les efforts qui ont été consentis à la fois par les ménages et les entreprises en termes de sobriété énergétique. On a eu des baisses de consommation qui ont aidé à passer tranquillement l'hiver. Donc voilà, donc si on regarde ces deux grandes sources d'inflation, vous voyez bien qu'aujourd'hui, on est plutôt dans la phase d'apaisement sur le front de ces tensions. Il n'empêche qu'on a atteint quand même des niveaux inédits, hein, du jamais vu en termes d'inflation depuis les années 80. Donc on a atteint un pic d'inflation en octobre dernier. Donc on est vraiment dans une phase, on va en reparler, mais d'une phase de désinflation. On a atteint un pic d'inflation en Europe à 10,6%. En octobre dernier. En France, et aujourd'hui on est sur l'Europe, le dernier chiffre c'est celui de mai, on est à 6,1% d'inflation. Pour la France, ça a été un petit peu particulier. On était depuis quelques mois sur une fourchette entre une inflation entre 5,5 et 6%. On a au mois de mai crevé ce plancher, hein, on est aujourd'hui plus qu'à 5,1% d'inflation, l'inflation baissant quand même moins que dans le reste de l'Europe pour la bonne et simple raison qu'on avait mis en place ces boucliers tarifaires à destination essentiellement des ménages à partir de 2021 pour le gaz et en 2022 pour l'électricité. Ces boucliers ont été un amortisseur à la hausse, mais seront aussi un amortisseur à la baisse. Hein, donc, si vous regardez, on avait à peu près trois points d'inflation d'écart avec la zone euro en moyenne à notre faveur au moment de pic d'inflation. Aujourd'hui, on est revenu au niveau moyen d'inflation au niveau de la zone euro. Et il est fort probable, si les prix de l'énergie ne bougent pas trop, etc., il est fort probable que l'inflation française repasse au-dessus de la moyenne de la zone euro. Alors, en revanche, ce qui tire essentiellement cette désinflation, bien évidemment, c'est la baisse des prix de l'énergie. Hein, c'est vraiment aujourd'hui, mais, alors pas en France, mais en Europe, l'énergie, l'inflation énergétique contribue négativement à l'inflation puisque les prix ont baissé. Dans une moindre mesure, on commence à avoir alors, ce qu'on appelle ces effets de base. Dans notre jargon d'économiste, l'effet de base, c'est simplement qu'aujourd'hui, vous commencez à comparer des prix par rapport à il y a un an, au moment où ils étaient très élevés. Donc, ça veut pas. Alors, dans le cas de l'énergie, ça baisse. Quelquefois, ça ne veut pas dire que ça baisse, mais ça veut dire que ça augmente moins vite, ce qui fait décélérer l'inflation. Et ça, ce mouvement sur les prix alimentaires, on devrait le vivre sur la deuxième partie de l'année 2022. Donc, on s'attend à ce qu'on continue de voir une inflation qui décélère sur la deuxième partie de l'année. En revanche, c'est le point d'inquiétude, notamment pour nos banques centrales, c'est que si vous expurgez l'inflation de ses composantes volatiles, à savoir donc l'énergie et l'alimentaire, eh bien, vous avez des tensions inflationnistes qui sont encore très présentes, beaucoup plus de nature domestique. Hein, donc, c'est les prix des biens et services qui augmentent et on ne voit pas. On commence à voir, on a l'impression qu'on a atteint un pic, mais ça baisse très, 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 très lentement. Donc, on invoque bien évidemment le fait qu'il y a eu ces répercussions hein, de toutes ces hausses amont qui progressivement sont passées du fournisseur à son client jusqu'au consommateur final. Mais pas seulement. Aujourd'hui, l'inflation, elle est aussi soutenue par les revenus, par les profits et par les salaires. Donc, si on regarde au niveau des profits, c'est vrai qu'on a été, enfin, je dois le dire, en tant qu'économiste, parce qu'on avait en tête, on regardait un peu ce qui s'était passé dans les années 70-80, l'inflation avait été mortifère pour les entreprises. C'était les entreprises qui avaient absorbé, en fait, le choc inflationniste, puisque, en fait, les salaires en plus étaient indexés sur l'inflation, et donc les marges s'étaient effondrées. Là, on a été très surpris du fait que, en fait, les entreprises ont eu cette capacité. Alors, au niveau macroscopique, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hétérogénéité entre les secteurs, entre les entreprises, etc. Mais au niveau macroscopique, ce que l'on observe, c'est que les marges ont été préservées pendant cette période, voire même dans certains secteurs, on a eu un peu des effets d'aubaine, dans l'énergie, dans le transport. Hein, alors c'est essentiellement dravé par CMA, CGM. Et puis on voit aussi dans l'industrie agroalimentaire, alors je ne vais pas faire une généralité, mais il y a eu au départ, il y a eu effectivement un pincement de marge au niveau de l'industrie agroalimentaire. Aujourd'hui, il y a eu un effet de rattrapage, voire sûrement pour quelques gros donneurs d'ordre, un peu d'effet d'aubaine durant la période, ce qui fait qu'on a plus que restauré le niveau de marge, sachant que vous avez des niveaux de marge qui sont quand même bas en tendance par rapport à d'autres secteurs. Et puis les salaires, Donc les salaires, on est en fait, si on regarde les salaires réels, donc si on défalque l'augmentation des salaires de l'inflation, on reste en salaire réel négatif. Donc on a eu des pertes de pouvoir d'achat, ce qui explique en l'occurrence les arbitrages des consommateurs, les baisses de volume sur l'alimentaire, vous avez évoqué sur le jus, mais sur l'alimentaire, c'est même 10% de baisse en volume depuis janvier dernier. Donc des baisses de pouvoir d'achat, mais les salaires sont aujourd'hui en train de rattraper. En fait, ce que l'on a, et ce qui est assez normal, c'est qu'on a monté une marche en termes de niveau de prix, parce que, soyons très très clairs, les prix ne vont pas rebaisser, enfin, sauf pour l'énergie, etc., mais les prix ne vont pas rebaisser. Donc on a monté une marche, et donc les salaires sont en train de rattraper progressivement pour se mettre au niveau de cette marche. Donc il faut s'attendre dans les mois prochains de voir continuer une augmentation des salaires qui vient compenser les pertes de pouvoir d'achat passées. La question est de savoir est-ce qu'on risque pas d'enclencher cette boucle un peu prix-salaire. Donc les salaires augmentant, les prix augmentent et on a ensuite une course-poursuite entre les prix et les salaires. C'est pas l'analyse que l'on a aujourd'hui, même si c'est probablement ce qu'il faut surveiller, tout simplement parce que alors que les chocs qu'on a connus, ils ont eu des impacts sectoriels très très différents suivant les périodes. Covid, ça a été surtout les services qui ont été très fortement touchés. Plutôt le choc en Ukraine, ça a été plutôt l'industrie et surtout les industries énergivores. Aujourd'hui, tous les secteurs font face à un seul choc qui est celui de la demande. Donc on est en phase de ralentissement de la demande et donc ça va être beaucoup plus compliqué pour les entreprises, comme vous le dites, c'est-à-dire que quand les prix augmentaient très fortement, mais il y avait une demande en face et que vous n'aviez pas d'alternative, la loi fait de l'offre et la demande faisait qu'on pouvait continuer à augmenter les prix et de répercuter sur son fournisseur. Au fur et à mesure où la demande commence à ralentir, ça va être plus compliqué de faire cet arbitrage entre volume et prix, puisqu'on voit bien que les consommateurs, eux, réagissent à ces augmentations de prix. Donc, quoi qu'il en soit, donc au-delà de ça, on a quand même vraiment cette idée qu'on va avoir une décélération. On envisage une inflation en France autour de 4%, un peu en deçà de 4% en fin d'année, qui continuerait son chemin de désinflation sur l'année 2024. Alors simplement pour terminer, s'il me reste que quelques minutes, c'est vous projeter au-delà, se dire bon voilà, on a connu un épisode inflationniste, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'inflation? Ça fait 15 ans qu'on vit sans inflation. Enfin, on a vécu avec une inflation, on parlait du 1%. On parlait d'1% d'inflation en Europe et en France globalement, en moyenne sur les 15 dernières années. Probablement que ce temps-là, il est révolu. Que certes, on s'attend, comme je disais, à revenir sur des niveaux plus raisonnables d'inflation, mais peut-être que cette inflation sera plus élevée en tendance pour deux raisons fondamentales, la géopolitique et le climat. Donc la géopolitique, on est dans un monde beaucoup plus fragmenté, avec une montée de la conflictualité globale, ce qui nous a amené, je crois que ça a été souligné, ce qui nous amène à repenser l'organisation des échanges internationaux, avec au cœur la notion de souveraineté et les questions de sécurité. Donc se développent plutôt des logiques de proximité, relocalisation, rapprochement des chaînes de valeur, raccourcissement des chaînes de valeur pour mieux les contrôler. Des logiques aussi de proximité de valeur. On se dit, on appelle ça la mondialisation entre amis. On va plutôt aller commercer avec des pays qu'on juge, enfin avec des partenaires qu'on juge fiables parce qu'ils sont assez proches idéologiquement. Ça ne veut pas dire qu'on va pas commercer avec le reste du monde, mais en ce qui concerne le reste du monde, il va falloir trouver un nouvel équilibre entre les logiques d'efficacité qui ont présidé à l'extension des chaînes de valeur globales à des logiques de sécurisation, enfin de sécurité, avec diversification des sources d'approvisionnement, redondance dans les chaînes de valeur, imaginer des plans B en cas de rupture d'approvisionnement, etc. On a redécouvert la vertu des stocks à cette occasion, donc aussi recréer du stock, etc. Et bien évidemment, la sécurité à un prix qui sera supportée en partie par le consommateur final. Donc ce qui veut dire qu'on s'attend à ce que, en tendance, les prix des biens échangeables au niveau international aient plutôt tendance à augmenter, ce qui est un facteur d'inflation. Et puis sur l'aspect climatique, on voit trois sources, donc avec ces transitions écologiques, on voit trois sources d'inflation. La première liée typiquement au climat, Je crois que ça a été dit également. Il y a des effets d'inertie au niveau du changement climatique, c'est-à-dire qu'on va encore avoir de plus en plus d'événements violents, plus fréquents, d'événements météorologiques qui vont avoir un impact sur l'économie et notamment sur la production agricole et finalement sur les prix alimentaires. On a aussi ce qu'on dit être l'inflation fossile. Vous avez parlé de transition et c'est très bien de rappeler que c'est une transition. Donc, à terme, on veut se débarrasser des énergies fossiles puisqu'on va aller vers ces économies net zéro ou bas carbone. Donc, on veut se débarrasser de ces énergies fossiles, mais on va en avoir besoin pendant la transition. Et donc, pendant la transition, il va y avoir toujours de la demande. L'offre sera probablement moins importante. En tout cas, on n'aura pas suffisamment peut-être investi dans la prospection, nouvelle prospection, etc. Donc, et on va poser aussi des taxes carbone, etc. Donc, ça va faire monter les prix. Et puis, dernier élément, l'inflation dite verte. Eh bien, pour toutes ces technologies vertes, que ce soit les panneaux solaires, les éoliennes, etc., ça demande énormément de métaux et de minerais critiques, dont on parle beaucoup, les terres rares chinoises, du lithium, du cobalt, du cuivre, etc. Et bien évidemment, on va tous demander beaucoup de ces produits au moment où les capacités d'offre ne vont pas nécessairement suivre, moyennant le fait qu'il va peut-être avoir aussi des phénomènes de cartélisation des producteurs en termes stratégiques. Et tout ceci va contribuer probablement à faire augmenter les prix de ces métaux et minerais critiques. Donc vous voyez qu'on a trois sources d'inflation, enfin on a quatre sources. L'aspect mondialisation, je ne parle pas de démondialisation, mais changement de visage de la mondialisation, et puis les aspects climatiques qui sont des facteurs qui seront plus inflationnistes. Alors, en même temps, je ne vous annonce pas, pour terminer, une inflation à deux chiffres en tendance. On va revenir quelque part, la période en fait qui était totalement atypique, c'est la période des 15 dernières années que l'on a vécue, avec une inflation qui avait totalement disparu des écrans radars. Donc on va revenir au monde d'avant, peut-être que l'inflation va être entre 2, 3, peut-être 4%. Est-ce grave, docteur ? Non. Tant qu'il n'y a pas ces phénomènes d'emballement au niveau de l'inflation, tout le système économique, tous les modes de fonctionnement économique va s'adapter à cette nouvelle donne si, en tendance, on délivre plutôt 2 à 3% d'inflation.